Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau rendez-vous de Version Homme. L'homme d'aujourd'hui, eh bien vous le connaissez très très bien professionnellement. C'est son côté personnel que nous allons aller découvrir au fur et à mesure de cette conversation. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Ouedi Hdedda, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femme d'aujourd'hui.
Je suis ravi, merci pour l'invitation.
Alors Ouedi, vous faites parler les gens de par votre métier. Est-ce que c'est facile pour vous de vous exprimer sur vous-même ?
C'est toujours un peu compliqué de parler de soi-même, surtout quand on est par nature timide et qu'on a été bercé dans un environnement où l'humilité primait. Mais bon, lorsque l'occasion se présente et la situation l'exige ou y est propice, comme à travers l'entretien que j'ai le plaisir de réaliser avec vous, ben je m'y prête volontiers.
Alors en général, quand on vous demande de parler de vous, qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que c'est forcément le volet professionnel ?
Nécessairement, oui. Moi, c'est ce qui a guidé ma vie, en fait. C'est à la fois professionnel et personnel, parce que c'est intimement lié à mon parcours et à la personne que je suis aujourd'hui, à l'enfant que j'étais. C'est ce rêve que j'ai nourri depuis toujours, quasiment, de devenir présentateur du journal télévisé. C'est vraiment cette lumière dans mon existence qui a guidé mon parcours et mon évolution.
C'est ce qui vous a fait rentrer au Maroc ? Vous vous êtes dit à un moment, je ne peux pas présenter le JT là-bas, en France, le pays dans lequel vous avez grandi, donc je retourne chez moi, là-bas on va me mettre en avant ?
Alors il y a deux petites précisions que je pourrais apporter à ce que vous dites, même si l'essentiel de ce que vous énoncez est vrai.
C'est une question.
La première, c'est que
question,
chez moi, chez moi, c'est à la fois ici au Maroc et en France.
Ouais, quand même,
je suis né là-bas dans le sud de la France, j'ai passé mes 25 premières années, j'y retourne assez régulièrement, j'ai ma famille là-bas, etc. Donc effectivement, bon, chez moi, ici au Maroc, c'est plutôt le patelin d'où sont originaires mes parents et où j'ai passé la quasi-totalité de mes vacances d'été lorsqu'on rentrait, comme le font les Marocains du monde en ce moment même. C'est Lille, à côté de Sfro, entre Sfro et Fès.
Absolument. Un village qu'on a eu l'occasion justement de découvrir en détail dernièrement dans un autre podcast.
Absolument.
Et Montassa nous a fait découvrir Lille.
Oui, je l'ai eu, pour la petite histoire, je l'ai eu récemment au téléphone et on s'est vu il y a quelques temps et il m'en a parlé avec beaucoup d'émotion, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis effectivement, dans le fait de venir ici à Casablanca, qui est une ville que je découvrais au moment où je suis venu passer mon stage à 2M, c'était pas dans l'idée de venir présenter le journal télévisé au Maroc parce que je n'y arrivais pas en France. Je venais d'être diplômé, il fallait que je réalise un stage de fin d'études pour valider mon master en journalisme. Et puis finalement, j'ai eu une seule réponse positive sur les dizaines de candidatures que j'avais envoyées. Il se trouve que cette réponse positive, elle venait d'ici de Heinsberg, donc voilà, j'ai pris mon pactage et j'ai débarqué.
Alors, quand je parle autour de moi de mes invités, des hommes que je vais interviewer, donc quand j'ai évoqué votre nom, Ouedi, beaucoup de personnes m'ont dit il a le physique du gendre idéal.
Il faut se méfier des apparences.
C'est vrai ? Alors, pourquoi ?
En toutes les circonstances. Non, c'est quand même assez prétentieux de se considérer comme le gendre idéal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent effectivement de ce que je peux dégager et renvoyer à travers l'écran. Du fait aussi que je suis quelqu'un de très passionné, de très investi, très impliqué dans mon boulot, très impliqué aussi auprès des jeunes, parce que je me suis fait un point d'honneur à partager avec eux cette conviction que j'ai, que les rêves sont faits pour être réalisés, que s'ils y croient, il et elle, bien évidemment, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Après, tout est relatif. Vous savez, quand on rentre dans la sphère privée, c'est pour ça que c'est un espace, moi, que je garde très précautionneusement à côté, voilà, et dans l'ombre Bon, y a, c'est comme tout, hein, c'est comme dans toutes les familles, dans tous les rapports amoureux, amicaux, fraternels, ou de père à fils, ou de mère à fille, c'est à la fois beaucoup d'amour et parfois quelques complexités.
Vous êtes papa, Wadi ?
Je suis doublement papa, oui. J'ai deux garçons.
Ok, de quel âge ?
Yanis, 8 ans, et Ryan, 14 ans bientôt.
D'accord, donc pré-adolescence déjà.
Absolument.
Les rapports changent quand ils grandissent comme ça, les garçons ? Moi, j'ai des filles, donc c'est à peu près les mêmes âges. Et c'est vrai qu'à partir de... Enfin, voilà, alors, la pré-adolescence, on la sent. Est-ce que c'est la même chose pour les garçons ?
Écoutez, moi, j'ai Ryan, bon, qui est effectivement pré-ado. C'est un jeune homme qui a toujours été très sage. De même que Yanis, d'ailleurs, même s'il est relativement plus jeune. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En plus, bon, je les vois grandir à distance, parce que je suis séparé de leur maman respective. Chacun a sa maman, bien évidemment. Et donc, je les vois très régulièrement, le plus souvent possible, pour les vacances, comme en ce moment. Et nos liens sont très particuliers, mais en dépit de la distance qui peut exister du fait de la situation familiale, ils sont très étroits et très chaleureux. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas à plaindre. Et je pense qu'eux le vivent aussi très bien, de par le caractère qu'ils ont et la manière dont ils l'expriment lorsqu'on se retrouve.
Alors, juste rassurer nos auditeurs, Wadi, vous n'êtes pas polygame ?
Non, absolument pas, non.
Voilà. Pour que ce soit pas mal compris.
De mes convictions.
Voilà.
Alors, j'ai été marié avec la maman de Ryan, puis on s'est séparés. On est resté en très bons termes, puis ensuite j'ai été marié avec la maman de Yanis, et on s'est séparés ensuite, et on est resté très bons amis. Donc ouais. Tout va pour le mieux.
C'est important de réussir son divorce ?
Ben oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, ça a été la première boutade que m'a lancée la maman de Yanis quand on a décidé d'un commun accord de prendre de la distance. Elle m'a dit, écoute, on n'a peut-être pas réussi totalement notre mariage, mais on réussira au moins notre séparation. Et effectivement, elle avait raison.
C'est important pour les enfants, surtout aussi. C'est surtout eux. Parce
c'est
que
eux
ça,
qui priment, c'est leur équilibre.
Ça, c'est le lien qui reste au final.
Cette situation, oui.
Ouais,
donc il faut que les choses se passent le plus calmement et de la manière la plus apaisée. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Il y a parfois quelques à-coups, il y a quelques frictions, c'est normal. Ouais. On est dans des rapports humains. Il y a de l'affect, il y a de l'émotion. Voilà, il y a du ressenti, il y a de l'histoire, il y a du vécu. On est fait de chair et de sang. Donc, ce serait mentir que de dire que tout s'est passé très calmement et paisiblement. Mais au final, quand on...
Ça finit par se calmer.
La situation aujourd'hui, non, ça se... Ouais. Honnêtement, il n'y a jamais eu de drame. Et on a toujours eu cette intelligence de leur part et de ma part dans un second temps de privilégier le bien-être et l'intérêt des enfants. Donc, les choses se passent parfaitement bien.
Comment on fait pour gérer quand on a un JT en direct et qu'à la maison, ça ne se passe pas bien ou qu'on est en pleine procédure de divorce, qu'on s'éloigne de ses enfants, etc. Comment on fait ? Comment vous faites ? Comment vous avez fait, surtout, Wadi, à cette époque ?
Au-delà de la situation personnelle, c'est vrai que parfois, on est amené à présenter le journal et puis il y a des tracas de la vie quotidienne, comme peut en avoir tout un chacun. Moi j'ai réussi... Ça a été un vrai travail sur moi-même à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en préparation de mon journal, à partir du moment où je franchis la porte du studio, je me concentre exclusivement avec les téléspectatrices et les téléspectateurs. Voilà, je considère qu'ils n'ont pas à pâtir de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je peux éprouver ou endurer, et qu'ils sont là devant leur écran dans l'attente d'un journal télévisé qui répond à leurs attentes d'être informés dans les meilleures conditions, de manière la plus fluide, la plus précise qui soit. Et donc, je me concentre exclusivement là-dessus, quoi.
Absolument. Ça, c'est
quoi, générique de fin.
Oui, mais en même temps, si je peux me permettre, bien que nous soyons des gens, des médias, des professionnels, etc., mais nous sommes aussi des êtres humains, dans le sens où il y a des choses qui passent. Des énergies, des choses qui peuvent passer, une tristesse qu'on peut percevoir dans les yeux, un timbre de voix qui est moins vif et moins joyeux que d'habitude, même si on a envie de camoufler une situation. Ça, finalement, ce sont des choses que contre lesquelles on ne peut pas lutter. Ça passe.
Oui, mais voilà. Après, c'est ce qui fait la différence entre les gens de manière globale, le grand public et puis les professionnels que nous sommes. C'est-à-dire qu'on arrive à surmonter ça. Mmh. Moi, j'ai été fasciné, par exemple, sans aller jusque dans ces extrêmes-là, par des présentateurs que j'ai pu suivre, notamment en France, et qui avaient vécu des drames familiaux. Vraiment catastrophique et qui le soir même était à l'antenne en train de dire madame monsieur bonsoir. Mmh. J'ai été subjugué aussi par des cas de comédiens qui pareil ont appris la disparition ou une situation difficile de leurs proches et qui le soir étaient sur les planches en train de faire rire le public. Mmh. Voilà, sont des choses qui font partie de la vie. Et en plus de ça, moi, je dis régulièrement, quand je discute de ça avec de la télé ou du JT avec des amis, je leur dis que la télévision m'a sauvé la vie. Parce que c'est vrai que c'est aussi un secours, quoi. C'est une bouée de sauvetage. Et le fait de pouvoir, pendant 25 minutes, 30 minutes ou une demi-journée, essayer de se concentrer sur autre chose.
Ouais.
Et de se dédier corps et âme à son activité professionnelle vis-à-vis d'un public dont on sait qu'il est de l'autre côté et qu'il nous suit et qu'il est attentif à ce que l'on dit, c'est aussi une source d'énergie. Moi, avant même de présenter le journal télévisé, ce qui m'a vraiment sauvé, littéralement sauvé, ça a été justement mon stage à 2M, parce que j'arrive à 2M et je perds mon frère le jour où je mets les pieds à la chaîne. Mmh. Et donc j'ai dû interrompre, parce que c'était vraiment le jour même, interrompre mon stage à la chaîne, aller enterrer mon petit frère à Dhalil et revenir une semaine, 10 jours plus tard. Et ce qui m'a permis de tenir le choc, ça a été les 12-13 heures que j'ai passées au quotidien pendant mon stage à la chaîne, où voilà, j'essayais de noyer mon chagrin dans le travail, dans les reportages que je réalisais, dans tout ce que je pouvais faire, qui pouvait m'occuper. Et ça a été une véritable issue de secours, quoi.
C'est dingue quand même, ça aurait pu vous dégoûter de cet endroit, parce que le jour où vous y mettez le pied, vous perdez votre petit frère. Donc ça aurait pu être différent, être vécu différemment.
Oui, c'est ce que je dis aux jeunes quand je partage avec eux ma perception des choses et de l'ambition et de la motivation et de la détermination. C'est-à-dire que la vie est ainsi faite, c'est pas un long fleuve tranquille, on est confronté à des obstacles et on va tous, malheureusement c'est ainsi, vivre des drames, des choses difficiles, compliquées, et c'est ce qui permet de tenir, c'est d'avoir toujours cet objectif, cette ambition, ce but que l'on poursuit, et en dépit des situations extrêmement complexe que l'on peut vivre, des situations que l'on peut traverser, et bien le fait d'avoir toujours ce repère, ça permet de rester debout, ça permet de rester lucide, ça permet de se donner une raison de vivre aussi. Mmh. Et c'est ce que j'ai enduré, c'est ce que j'ai éprouvé à 2M quand je suis arrivé, quand mon petit frère Jamal est décédé. Et donc voilà, non, ça n'a pas été un dégoût, parce que moi je rêve depuis gamin de faire de la télé et en particulier de la présentation aux news. Et donc voilà, les choses se sont passées de cette manière-là. Ouais. Je suis allé faire ce qu'il y avait à faire à Bali, lui dire adieu, et puis je suis revenu, quoi.
Alors justement, vous êtes l'aîné de la famille. On parle souvent de la charge mentale de l'aîné.
C'est une grosse responsabilité,
ouais.
Notamment dans la cellule familiale marocaine, et pas seulement, je pense méditerranéenne de manière globale, même si je n'ai pas de connaissances particulières là-dessus. Ce que je ressens, c'est ce que je peux voir au gré des témoignages et des échanges que je peux vivre ou que je peux suivre. Maintenant, oui, bon, c'est comme ça, hein. Il y a une responsabilité. Maintenant, il ne faut pas se poser de questions. Moi, je ne me pose pas de questions. Je l'assume. J'essaye de l'assumer du mieux que je peux. C'est parfois éprouvant. C'est parfois moralement très très fatigant, mais c'est ainsi et je le fais parce qu'il faut le faire et sans rechigner, sans vraiment me poser de questions, quoi. C'est dans l'ordre naturel des choses. C'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça que j'ai grandi et ça ne me pose absolument aucun problème.
Parfois, est-ce qu'on se sent le parent de ses parents quand on est l'aîné?
Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que de toute façon, chacun est dans son rôle. Chacun est à sa place. Et c'est vrai que parfois, quand on est un enfant et qu'on a une maman qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école et qui n'a pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire, ce qu'elle a fait plus tard, on a cette responsabilité de lire les documents administratifs ou de remplir certains papiers. Mais au moment où ça arrive, ça se fait, là encore une fois, de manière très naturelle, parce que dans la cellule familiale marocaine, on a été élevé, même si on a grandi en France, on a été élevé vraiment avec les valeurs, les principes de notre marocanité. C'est quelque chose de normal. Et en plus, il y avait les copains aussi qui faisaient la même chose. Donc, en soi, les camarades français, ils avaient des parents qui étaient ingénieurs ou qui étaient professeurs et qui n'avaient pas ce souci-là. Mais nous, pour nous, c'était quelque chose qui était dans l'ordre naturel de notre quotidien, quoi.
Voilà, de la culture, de l'environnement, absolument. Par rapport à cet environnement-là, où il y a ceux qui ont les parents, comme vous avez dit, ingénieurs, et les autres qui ont les parents issus de l'immigration, certains en parlent. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous avez un jour ou l'autre vécu ce sentiment du syndrome de l'imposteur?
Honnêtement, non.
Non ?
Ce serait mentir que de dire cela. Encore une fois, à partir du moment où on est en phase avec ce qu'on est, ce qu'on représente, et ce qu'on a, et qu'on se satisfait de ce qu'on a, même si on a l'ambition d'avoir plus, en respectant les règles et en faisant les efforts, en produisant les efforts nécessaires, la question se pose même pas. Moi, j'ai jamais eu de difficulté particulière. Bon, il se trouve que depuis que je suis gamin, ma mère me répète à tue-tête « qara, qara, qara », à moi d'ailleurs ou à mes frères et sœurs. Donc, pour nous, il fallait étudier, il fallait avoir de bonnes notes. Après, on comprend au bout de quelques années. Moi, je me souviens que le déclic, c'était, je crois, la troisième année de primaire, où on comprend que finalement, si on étudie, c'est pour soi et c'est pour se sortir de difficultés auxquelles on pourrait être confronté.
Vous l'avez compris après, très tôt, hein, c'est bien quand même.
Oui, ça a été très tôt parce que c'est arrivé aussi quasiment en parallèle avec le rêve que j'ai eu de devenir présentateur du journal télévisé. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai 7-8 ans. Donc, c'est à peu près à cette période-là, et même si ce n'était pas formulé de cette manière-là, mais déjà à l'époque, je disais que je voulais être présentateur du JT. Et donc, j'ai étudié, bon, j'avais de bonnes notes, je me débrouillais. Moi, je fonctionne beaucoup au challenge, vraiment, et puis à la comment dire, espèce de confrontation. J'ai besoin de me challenger avec meilleur que moi. De sparring partner que j'avais à l'école, donc je me débrouillais toujours pour finir premier de la classe. Quand ça n'arrivait pas, bon, j'étais deuxième ou troisième, donc ça a été comme ça jusqu'au bac, puis après à la fac, c'était tranquille, quoi. Bon, il y avait concours d'école de journalisme à devoir décrocher, j'ai passé 4 fois quand même les concours, en parallèle j'ai fait du droit, une matière que j'aimais beaucoup, donc ça se passait très bien, puis je travaillais dans la presse quotidienne régionale, presse écrite. Donc les choses ont roulé sans vraiment, au contraire, de temps en temps, il y avait effectivement le fait de voir un jeune franco-marocain se démarquer de certains camarades qui étaient plus intéressés par le fait de faire quelques bêtises à l'extérieur. Bon, ça donnait une certaine valeur, et j'ai eu des profs qui ont été très attentionnés avec moi dans ce sens, et qui m'ont vraiment beaucoup encouragé. L'école a joué un rôle fondamental. Bah, encore une fois, et je reviens à la télé qui m'a sauvé la vie, comme je vous le disais, quand je suis arrivé à 2M, mais elle m'a sauvé la vie aussi d'une certaine manière, étant enfant, parce que les choses que nous ne faisions pas en famille, en termes de découvertes, aller dans des musées, parce que bon, c'était pas forcément dans l'esprit ou dans la culture familiale, eh bien, je le voyais, je le découvrais, je l'apprenais à la télé. Donc moi, j'étais vraiment un téléphage, quoi, très jeune. pour ça que quand je vois parfois des parents qui disent qu'il ne faut pas laisser les enfants trop longtemps devant la télévision, moi, heureusement que mes parents, c'est vrai qu'on est, c'était structuré, c'est-à-dire quand on avait cours, etc., on ne regardait pas la télé, mais quand les week-ends et puis à certaines heures précises, j'ingurgitais du documentaire et des films historiques ou des choses ou des débats politiques, d'ailleurs, très jeunes.
Donc, quand vous avez la guerre des enfants, c'est Open TV, yak.
Non.
C'est différent.
Maintenant, de toute façon, les enfants d'aujourd'hui, ils regardent plus la télévision. Ils sont accrochés à leur smartphone et à leur tablette.
Ouais.
Encore une fois, tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. Moi, je dis souvent à mon fils, à l'aîné, je lui dis, écoute, moi, si tu veux regarder, lire un journal sportif ou regarder un documentaire sur une star du ballon rond, parce qu'il est fanat de foot, moi, j'ai aucun problème. À partir du moment où il y a une utilité, si c'est juste pour passer son temps sur les réseaux à faire du scrolling, c'est pas la peine.
Alors justement, Wadir, pour finir, vous avez des rêves pour vos propres garçons ?
Ah, moi, mon rêve, c'est qu'ils réalisent le leur. C'est aussi simple que ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. Il se trouve que, comme quoi, il n'y a pas de hasard. L'aîné est passionné de sport et de foot en particulier, donc il est en train de s'orienter vers cette branche-là. Et je fais tout pour le soutenir et l'accompagner. Et puis le cadet, j'ai le sentiment qu'il va peut-être s'orienter vers quelque chose d'un peu plus culturel, c'est ce qui transparaît là maintenant, mais il a encore un peu de temps pour choisir, et en tout cas il peut compter sur moi pour le soutenir, parce que je ne sais que trop bien ce que c'est que d'avoir un rêve, et je ne sais que trop bien ce que c'est que de le réaliser un jour.
Ouais. Alors justement, quand on a réalisé son rêve, et on va finir là-dessus, quand on a réalisé son rêve, qu'est-ce qui continue à nous faire vibrer quand on est une personne comme vous, de challenge et de passion ?
C'est ça qui est fabuleux dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un rêve et qu'on le poursuit, quand on arrive à le réaliser, ça suscite d'autres rêves. Peut-être moins denses, peut-être moins intenses, mais d'autres rêves également. J'ai rêvé de sortir des bouquins, d'écrire. Je l'ai fait. Je rêve d'explorer d'autres univers, d'atteindre d'autres objectifs, en ce moment même d'ailleurs. Et je fais tout pour. C'est ça qui est magnifique dans ce cercle vertueux, c'est qu'il est infini. Et il donne lieu à chaque fois à de nouvelles choses et à de belles énergies positives. Et puis finalement, c'est ça la finalité de l'existence. De déployer toute sa bonne énergie et toutes ses compétences les plus pointues pour atteindre ses objectifs et, dans la mesure du possible, partager cela avec les autres.
Eh bien, Wadir Dada, merci infiniment d'avoir été avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui.
J'étais ravi, merci.
Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Médien et bien sûr en avant-première sur Médien Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Médien Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.